France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. L'armée israélienne a dit ce matin avoir ouvert le feu sur des personnes suspectes dans le nord de la bande de Gaza. Les autorités sanitaires locales font état d'au moins 6 morts. De son côté, le Hamas a décidé de se lancer dans une chasse aux traîtres quand le jour d'après au Proche-Orient résonne déjà des premiers règlements de compte. La Russie est-elle prête à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN? C'est en tous les cas l'avertissement lancé par les services secrets allemands. L'actualité en France, c'est à la fois le projet de budget présenté aujourd'hui par le gouvernement, mais aussi le discours attendu de politique générale de Sébastien Lecornu. Enfin, avec notre invité aujourd'hui, Gaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné. On parlera de la mémoire encore vive de ces crimes qui ont frappé ces dernières années l'école, bien sûr, et au-delà, le pays tout entier. Même si ce premier jour de paix ne signifie pas encore, loin de là, le début d'une nouvelle ère au Proche-Orient, telle que promise par Donald Trump, la libération hier de tous les otages israéliens, comme la suspension du massacre des Palestiniens, représente évidemment ce matin encore une respiration inestimable dans cette région du monde hantée depuis plus de 2 ans par le souffle de la mort. Est-ce que derrière ce sentiment de soulagement infini, comment ne pas s'interroger sur le jour d'après et les conditions de parvenir à une paix réelle et pas seulement à la mise en scène diplomatique qu'on fait la tournée d'auto-célébration du président américain de la fin d'un long cauchemar comme s'en est vanté hier encore Donald Trump devant le Parlement israélien. En réalité, de très nombreux écueils demeurent. Le Hamas, par exemple, ne s'est toujours pas prononcé sur son désarmement, d'autant que le mouvement islamiste a même décidé de lancer ses forces contre les milices accusées de collaboration avec Israël. Gaza, à l'heure des règlements de compte, c'est une correspondance depuis Jérusalem, signée Thibault Lefebvre.
Les mots d'Anwar Rajab, c'est le porte-parole des forces de sécurité de l'autorité palestinienne, laissent peu de place au doute. Il affirme en effet sur la chaîne saoudienne Al Arabiya que le Hamas est en train de créer les conditions d'une guerre civile. Depuis le cessez-le-feu, les affrontements et les règlements de compte se multiplient. Sur cette vidéo, 4 hommes à genoux, les yeux bandés, sont exécutés en public à l'arme automatique par des miliciens du Hamas. L'organisation islamiste passe des messages aux clans bédouins du Sud, comme les forces populaires de Yasser Abu Shebab, qui a ouvertement reçu des armes des Israéliens, mais aussi à destination de grandes familles très influentes à Gaza et pour certaines proches depuis des années d'autres factions. Rami Al-Bagari est un de nos journalistes dans l'enclave.
Le Hamas se bat avec une famille importante de la ville de Gaza, les Dormouche. 20 personnes sont mortes des deux côtés. Le Hamas est en train de déployer ses hommes dans la bande de Gaza.
La nouveauté, c'est que désormais, ses dirigeants ont le soutien des États-Unis. Dans l'avion qui l'amenait hier en Israël, Donald Trump a en effet affirmé que l'organisation islamiste avait reçu l'accord des Américains pour maintenir l'ordre pendant une période déterminée.
Alors il en est un pour qui le cessez-le-feu obtenu à Gaza résonne évidemment comme un espoir possible pour la paix dans son pays. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il devrait être reçu vendredi prochain à la Maison-Blanche. Pour l'heure, il devrait être essentiellement question de défense aérienne. Ces derniers jours, l'Ukraine a été visée par de nouvelles vagues massives de bombardements sur ses infrastructures énergétiques. Autant de frappes qui, à l'aube du 4e hiver depuis le début de l'invasion russe, menacent de plonger le pays tout entier dans le froid et l'obscurité.
Et dans ce contexte, voilà une alerte qui a de quoi faire frémir.
Oui, la Russie est-elle prête à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN? C'est ce que laissent entendre les services secrets allemands. Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin, cette menace pourrait même être bien plus imminente encore qu'on ne pouvait le craindre jusqu'à présent.
Oui, jusqu'à présent, les autorités allemandes évoquaient une échéance proche et lointaine à la fois. L'année 2029, c'est à cette date, estimait-elle, que la Russie aurait les moyens de lancer une attaque à grande échelle contre des pays de l'OTAN. Mais pour le nouveau chef du service de renseignement allemand, la menace pourrait intervenir bien avant cette échéance de 2029. Martin Jäger affirme qu'à tout moment, la situation peut dégénérer. Pas question de nous reposer sur nos lauriers. Surtout, il réclame de la fermeté vis-à-vis de Moscou, car, précise-t-il, toute autre réponse est perçue par la Russie comme comme une faiblesse. Pour les services secrets, l'Allemagne, principal soutien de l'Ukraine militaire et financier, fait figure de cible numéro un de la Russie en Europe. Ces dernières semaines, les incidents se sont multipliés avec non seulement des violations de l'espace aérien en Estonie, en Pologne, au Danemark, mais aussi au-dessus de l'aéroport de Munich où des survols de drones ont paralysé le trafic deux jours consécutifs. L'Allemagne a également été visée par des sabotages et des campagnes de désinformation que Berlin a attribuées à plusieurs reprises au Kremlin. Il faut s'adapter à la menace russe, préviennent encore les chefs des services de renseignement qui réclament plus de pouvoir juridique et de meilleurs équipements techniques. Seule réponse efficace, disent-ils, si le conflit se transforme en confrontation brûlante.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. Arrivé pour la première fois à la tête de Madagascar par un coup d'État, c'était en 2009, sa dernière élection pour un mandat de 5 ans date de 2023 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Or hier soir, c'est bien le même André Rajoelina qui depuis un lieu inconnu a pris la parole sur les réseaux sociaux pour non seulement écarter toute démission mais aussi appeler à, je cite, respecter la constitution. Alors cette intervention du président dont personne d'ailleurs ne sait aujourd'hui encore où il se trouve, toujours sur l'île ou bien en fuite à l'étranger, a nourri une certaine confusion jusqu'à ce matin encore où le chef de l'État a cette fois-ci carrément décidé de dissoudre l'Assemblée avant un vote pour abandon de poste, de quoi donner forcément une nouvelle tournure au mouvement de contestation qui secoue actuellement ce pays miné par la corruption et parmi les plus pauvres du monde.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
De crise en crise, le budget de la France finira-t-il par être voté? Ce matin se tenait le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, le Cornu 2. Alors, il n'était pas encore question ici véritablement d'exercice du pouvoir, mais plutôt toujours de chercher dans un sursaut de lucidité les moyens d'apaiser les esprits. D'ailleurs, ce sera également le cas cet après-midi lors du discours de politique générale du Premier ministre qui, en dépit de l'opiniâtreté affichée par le président, le sait bien, il ne pourra compter a priori sur aucun état de grâce dès lors que, dans les rangs même des partis jusqu'ici alliés au pouvoir, la confiance est désormais quasi nulle. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, toute la question pour Sébastien Lecornu est de savoir s'il sera en mesure ou non d'échapper à un vote de censure. Deux motions, on le sait, ont d'ores et déjà été déposées, l'une par le Rassemblement National et l'autre par la France Insoumise. Celles-ci seront débattues jeudi matin à l'Assemblée. Et parmi les sujets qui pourraient faire pencher la balance, en l'occurrence à gauche, on trouve notamment celui de la justice fiscale. À ce titre, il semblerait que le projet de budget non seulement reconduise partiellement la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, mais aussi instaure une taxe sur les holdings patrimoniales et puis se pose par ailleurs la question de la suspension ou non de la réforme des retraites. Une suspension, Jeanne, que les socialistes veulent, et c'est un détail important, à la fois immédiate et complète.
Oui, c'est une formule, cette formule qui a été retenue et que les cadres socialistes martèlent ces derniers jours, complète. Cela veut dire deux choses. D'abord, le gel de la mesure d'âge. Le compteur doit s'arrêter à son niveau actuel pour le PS et la CFDT, c'est-à-dire à 62 ans et 9 mois. La seconde condition sur laquelle insistent les socialistes porte sur la durée de cotisation. Le cap, fixé par la réforme Touraine en 2014, prévoit de passer de 42 à 43 années de cotisation pour partir à taux plein. Mais la réforme de 2023, portée par Elisabeth Borne, prévoyait d'accélérer le calendrier pour atteindre plus rapidement que prévu cet objectif. Pas question pour le PS, qui se montre sur ce point plus inflexible que la CFDT. Le syndicat n'exige pour sa part qu'une suspension de l'âge légal. C'est donc un discours sans ambiguïté qu'attendent les socialistes cet après-midi, même si parmi leurs 69 députés, des nuances de rose existent sur le degré de précision du Premier ministre attendu. Un bureau national du parti se tiendra à 13h pour fixer la ligne. Quoi qu'il en soit, si suspension il y a, elle ne sera pas sans contrepartie. Un gel des pensions de retraite pourrait en être une. La mesure figure dans le projet de budget présenté ce matin en Conseil des ministres. Pas de lecture à en faire, réagissent ce midi plusieurs porte-parole socialistes qui rappelle qu'aucun compromis n'a été négocié avec le gouvernement.
Merci Jeanne Serrin. Alors on l'a compris, l'heure de vérité approche pour le nouveau gouvernement, lequel joue sa survie sur l'existence même d'un budget. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce matin, l'exécutif rendait public sa mouture pour l'année 2026, s'agissant du budget de l'État, mais aussi celui de la Sécu. C'est désormais au Haut Conseil pour les finances publiques de se prononcer sur sa viabilité. Il se trouve que son président Pierre Moscovici était entendu justement à l'Assemblée ce matin même. Il a tout d'abord constaté que le déficit était tenu pour cette année autour de 5,4%, mais que le gouvernement était sans doute ambitieux, Valentin, pour l'année prochaine, pour le ramener à 4,7%.
Oui, Pierre Moscovici
Moscovici égrène des mesures substantielles côté budget de l'État. 14 milliards de prélèvements sur les hauts patrimoines, entreprises et ménages, avec le gel du barème de l'impôt sur le revenu et la CSG. Côté sécurité sociale, le doublement des franchises médicales, une division par trois des arrêts maladie pour les affections longue durée, et même une année sociale blanche avec le gel des pensions de retraite et des prestations sociales. Objectif, ramener le déficit de la Sécu de 22 à 17 milliards d'euros pour 2026.
Malgré ces efforts, donc évident, le Conseil des finances publiques reste malgré tout sceptique, Valentin, sur la trajectoire, en l'occurrence budgétaire, l'an prochain.
Et oui, car si les chiffres prévus, 1% de croissance notamment, ne sont pas saugrenus, le Haut Conseil prévient, serrer la vis sur le pouvoir d'achat et augmenter les prélèvements, c'est prendre le risque de recettes moins élevées. Exemple avec la consommation, dont Matignon attend qu'elle reparte à la hausse. Une chimère, selon Pierre Moscovici.
Ça, c'est vraiment un peu en attendant Godot. Ça fait des années qu'on nous annonce que la consommation va partir. Ce que nous constatons, c'est que l'épargne est très forte. Et c'est vrai que les comportements de précaution dans une période comme celle-ci, bon, sont quand même assez puissants.
Surtout, que dire d'un budget dont le détricotage est déjà annoncé par les oppositions ? Exercice, et je cite, spéculatif à blanc.
Je dois le dire, les annonces publiques et les discussions récentes suggèrent qu'une pleine mise en œuvre, vous voyez, je vais être euphémistique, des mesures évoquées est peu probable. En outre, des mesures nouvelles qui ne figurent pas dans le projet de texte dont nous avons été saisis sont susceptibles de venir mettre fortement en cause le scénario présenté ici. Ce serait bien sûr, par exemple, le cas avec une suspension de la réforme des retraites.
Tout au plus, le Haut Conseil peut-il constater pour cette année l'échec de Michel Barnier puis François Bayrou à réduire les dépenses publiques ? Malgré leurs promesses, ce sont de nouveaux prélèvements qui ont limité le dérapage du déficit en 2025.
Merci Valentin Gré. Et puis je précise, on l'a appris ce matin, que le député, le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, donc appelle ses troupes à ne pas voter la censure demain.
5 ans après l'assassinat de Samuel Paty, 2 ans après celui de Dominique Bernard, de multiples hommages seront rendus dans les prochains jours aux deux professeurs.
Oui, lundi aura lieu une cérémonie à Arras pour saluer la mémoire de Dominique Bernard, poignardé à mort. C'était le 13 octobre 2023. Ce matin même, une minute de silence a été observée dans tous les collèges et lycées de France en hommage à Samuel Paty. Et puis dimanche prochain, une cérémonie commémorative aura lieu dans le Val d'Oise, là où vivait le professeur d'histoire-géographie avant d'être assassiné, poignardé puis décapité le 16 octobre 2020. Alors il y a quelques jours, dans une lettre envoyée aux enseignants, la ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, Elisabeth Borne, écrivait « La mémoire de ces crimes qui ont frappé l'école au cœur demeure vive », sans compter que l'assassin présumé de Dominique Bernard demeure toujours en détention provisoire dans l'attente de son jugement. Et puis, un an après le verdict rendu suite à l'assassinat de Samuel Paty, le procès en appel concernant les principaux accusés doit lui s'ouvrir début 2026. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, celle des deux sœurs de Samuel Paty, dont la parole est peut-être la plus rare aujourd'hui, Gaëlle, deuxième de la fratrie, longtemps libraire dans le Gers, puis enseignante auprès d'élèves en institut médico-éducatif et co-autrice d'un ouvrage intitulé « Samuel Paty, un procès pour l'avenir » paru la semaine dernière chez Flammarion. Bonjour madame.
Bonjour.
Dans votre livre, vous décrivez comment, je vous cite, le poids énorme qui depuis 4 ans vous empêchait jusque-là de respirer et presque de vivre s'est envolé lorsque le 20 décembre dernier, vous avez entendu donc le président de la cour d'assises prononcer le dernier mot du verdict qui reconnaissait coupable les 8 prévenus au terme de 7 semaines de procès. Près de 10 mois plus tard, ce sentiment qu'une page s'est tournée avec ce verdict est-il encore le vôtre ?
Oui, c'est encore le mien. Effectivement, j'imaginais pas à quel point la justice pouvait changer des choses en soi. Une page est tournée. Cette page, c'est celle de pouvoir regarder les choses en face. Face à la barbarie de l'acte et au drame que ma famille a subi. Le procès a été un moyen de mettre un sens quelque part sur ce qui s'est passé par ce long processus, parce que 7 semaines d'audience, c'est très long, et de pouvoir avoir cette possibilité de comprendre exactement ce qu'il s'est passé, de comprendre les parcours des accusés, donc des coupables, m'a permis en fait maintenant de pouvoir regarder en face. Et regarder en face, c'est sortir de la sidération. C'est ce mot qui est ressorti dans la bouche de la professeure Joëlle Lazare, qui est également responsable de l'association des profs d'histoire géo, qui s'exprimait au nom de tous les professeurs de France quelque part, qui disait que cette sidération avait bloquer tout depuis 4 ans dans le pays, notamment au sein de la communauté enseignante, et que pouvoir enfin sortir de la sidération, c'est pouvoir enfin envisager l'avenir.
C'est la raison pour laquelle vous intitulez votre livre « Un procès pour l'avenir ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Ben, le procès pour l'avenir, déjà, c'est un procès pour mon avenir, l'avenir de ma famille, évidemment, parce que ça a changé beaucoup de choses en nous. Mais j'espère que c'est aussi un procès pour l'avenir de la société et de l'école, notamment. C'est un procès qui va permettre d'enfin pouvoir mettre des actions en face du symbole que mon frère est devenu. Sortir de du symbole et pouvoir enfin faire rentrer quelque part le professeur qu'il était dans toutes les classes, dans toute la société.
5 ans après la mort de votre frère, de nombreuses questions restent malgré tout en suspens sur d'éventuels manquements de l'éducation nationale et de l'État quant à la cabale numérique qui s'était enclenchée contre lui. 5 ans après, est-ce que, selon vous, l'institution scolaire est mieux préparée face à une telle menace ?
Alors, il est clair qu'il y a certainement eu des manquements, que ce soit au niveau de l'éducation nationale ou du ministère de l'Intérieur. La famille de Samuel et donc moi-même avons déposé une plainte il y a déjà quelques années pour essayer de comprendre quels étaient ces manquements, qui est une sorte d'introspection faite au sein de ces ministères pour que ça ne se reproduise plus, parce que c'est quand même l'objectif de ce processus. Il y a clairement eu des manquements. Je sais que l'éducation nationale fait certaines choses différemment aujourd'hui. Honnêtement, je ne suis pas certaine que tout soit fait actuellement, parce qu'il y a toujours une forme d'opacité dans le discours de l'éducation nationale, comme si voilà, il y a une sorte de protection qui se met en place et qui empêche souvent d'avancer. Je sais que c'est ce que les professeurs reprochent souvent à l'institution. Moi, j'appelle que qu'aujourd'hui on puisse regarder les choses en face, sans chercher de nouveaux coupables, parce que c'est pas du tout ce que je recherche aujourd'hui. Les coupables, ils ont été jugés lors de ce procès. Je ne cherche pas de nouveaux coupables. Par contre, je cherche toujours des réponses.
Je l'évoquais tout à l'heure, s'ouvrira en janvier prochain donc le procès en appel. Comment est-ce que vous l'abordez ? Est-ce que vous y assisterez d'ailleurs, comme vous aviez suivi toutes les audiences lors de la première instance ?
Oui, j'y serai toujours comme la première instance, mais pas du tout dans le même état d'esprit. J'y vais déjà plus sereine, dans le sens où la justice est déjà passée pour moi. Elle a dit ce qu'il s'était passé, elle a montré les responsabilités de chacun. Donc j'y suis pas en quête de vérité, parce que j'attends rien des accusés qui vont certainement encore une fois se retrancher derrière des « je n'ai rien vu, je ne savais rien et je ne suis responsable de rien ». Je n'attends rien d'eux, mais par contre j'y serai, parce que c'est important de quelque part de représenter Samuel dans cette salle d'audience.
Merci Gaëlle Paty d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre donc de l'ouvrage que vous avez coécrit, intitulé Samuel Paty, un procès pour l'avenir, paru la semaine dernière chez Flammarion. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Comment rendre visible l'invisible ?
Oui, c'est le projet un peu fou que vient de dévoiler hier soir une association créée au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui prévoit de reconstruire à l'identique et grandeur nature la flèche comme la charpente médiévale de la cathédrale à Pougles-les-Eaux dans le département de la Nièvre, le tout en profitant sur place d'une grande forêt de chênes. Alors l'ambition est double, tout d'abord promouvoir les métiers d'art, faire découvrir les savoir-faire d'excellence, mais aussi créer un site à vocation culturelle et mémorielle, comme l'explique le fondateur de l'association, directeur du projet, Pascal Jacob, joint au téléphone par Benoît Grossin.
On va reprendre exactement les mêmes gestes pour les charpentes médiévales et les mêmes techniques de charpente 19e siècle, néogothique, donc pour réaliser cette flèche, pas recouverte de plomb par rapport à Paris, hein, puisque nous mettons en exergue les charpentes, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles se voient de l'extérieur et elles seront revêtues, notamment d'une verrière. L'objectif est de faire découvrir la flèche dans toutes les positions, c'est-à-dire par le dessous, c'est-à-dire la croisée des transepts. Les voûtes ne seront pas reconstituées. On verra donc la structure par le dessous, avec un accès qui permettra au public de pénétrer dans le premier étage ajouré via une tour ascensionnelle juste à proximité de la flèche et qui permettra par un ascenseur de grimper dans cette flèche via une passerelle. Donc on veut faire découvrir évidemment toutes les technologies autour de ces métiers de charpente, hein, la modélisation 3D, les logiciels de calcul, l'intelligence artificielle. Et puis c'est aussi valoriser les grandes chênaies françaises et leur mode de gestion en futaie régulière qui permet d'avoir des arbres exceptionnels aujourd'hui. C'est aussi un projet très pédagogique, c'est le partage à travers tous ces métiers que nous allons exposer lorsque l'ouvrage sera construit et accessible.
Oui, je précise que ce projet sera entièrement financé par du mécénat. Le coût d'envoi du chantier prévu d'ici 2 ans environ pour une ouverture au public en 2030. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Plutôt calme sur la majeure partie du pays, même si des bandes brouillard tenaces persisteront, notamment sur l'extrême nord et le centre-est du pays. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Thank you.